France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Ce pourrait bien être le début d'un séisme à Washington. Donald Trump est depuis hier soir visé par une enquête en vue d'une destitution. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, ouvre une enquête officielle pour impeachment à l'encontre du président américain. Il est accusé d'abus de pouvoir. Donald Trump est soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur l'ancien président Joe Biden, potentiel rival démocrate de Donald Trump pour la présidentielle l'année prochaine. Le président américain a réagi déjà à cette annonce depuis l'Assemblée générale de l'ONU hier à New York. Il dénonce une chasse aux sorcières de caniveau. Donald Trump à l'ONU, il s'exprimait hier à la tribune, tout comme une dizaine de dirigeants. Le Français Emmanuel Macron a ainsi espéré publiquement qu'une rencontre entre Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani ait lieu. Les conditions d'une négociation entre Washington et Téhéran sont réunies, voilà ce qu'estime le chef de l'État français. Le Parlement britannique rouvrira ses portes dans la journée tout à l'heure sur décision de la Cour suprême. Elle a officiellement annulé la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson il y a quelques semaines. Le Premier ministre est donc en grande difficulté et risque un nouvel appel à la démission. Il pourrait lui réclamer une nouvelle fois la tenue d'élections législatives anticipées, ce que l'opposition travailliste refuse. En France, le projet de loi sur la bioéthique a commencé à être examiné dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale hier. Il est porté par trois ministres, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, la ministre de la Recherche Frédérique Vidal et bien entendu la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle a notamment défendu la mesure phare du texte, l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. C'est une chance et même un privilège pour notre société, a-t-elle déclaré hier. Et puis notons que c'est officiel, l'audiovisuel public français va être regroupé en une seule holding. Le ministre de la Culture, Franck Riester, l'a confirmé ces derniers jours aux représentants des groupes France Télévisions, Radio France, l'INA ainsi que France Média Monde. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Chaque jour sur France Culture à midi, La Grande Table, Olivia Gisbert.
La nature, l'amitié, les langues, la guerre, dans son nouveau roman Scrabble, notre premier invité, l'écrivain Michael Ferrier, fait remonter les souvenirs de son enfance au Tchad. Puis, un autre voyage, celui d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, de Pékin à San Francisco. Quelles libertés auront demain encore droit de cité ? Gaspard Koenig s'interroge à notre table.
La Grande Table, ce mercredi à midi et sur franceculture.fr.
Et sur France Culture à 6h03, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem. Nous sommes mercredi, nous parlons cinéma.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 à la radio, c'est-à-dire tôt le matin ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast de l'émission disponible entre autres en passant par l'application de Radio France. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma et aujourd'hui, on va parler sur France Culture de la sortie du dernier Rambo, Rambo Last Blood. C'est le cinquième opus de cette saga qui a vu le jour en 1982 avec Sylvester Stallone dans le rôle titre, Rambo, John Rambo, le vétéran de la guerre du Vietnam, un être primaire et patriote, l'incarnation sur grand écran de l'Amérique qui veut solder les comptes de sa culpabilité, de ses guerres impérialistes et surtout de ce trauma, de ce bourbier qui demeure à ce jour la seule défaite militaire américaine, celle infligée par Ho Chi Minh et le camp communiste au Vietnam. Longtemps considéré comme le représentant de l'impérialisme américain, l'acteur des années Reagan serait un personnage un peu plus complexe que sa caricature et sa marionnette des guignols, estiment nos deux invités aujourd'hui, c'est-à-dire le journaliste Olivier Delcroix, journaliste au Figaro et directeur du Figaroscope par ailleurs, et auteur de l'ouvrage Le cinéma d'action américain aux éditions Webeck, et l'universitaire David Da Silva, auteur d'un ouvrage de référence autour de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, édité par Leitmotiv. Ils ont vu pour nous, en avant-première, le dernier Rambo qui sort ce matin.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour David Da Silva.
Bonjour.
Bonjour Olivier Delcroix, ravi de vous retrouver.
Bonjour Tophie.
Alors vous êtes allé voir ce Rambo, ce cinquième Rambo, peut-être même le dernier de la saga.
On espère, parce qu'effectivement quand même le premier en 82 s'appelait First Blood, donc voilà, on versait le premier sang. Et cette fois-ci, on a droit à un titre qui dit Last Blood. Donc c'est le dernier sang, on espère bien, malgré tout, parce qu'effectivement, à 73 ans, ce cher Sylvester Stallone est tout de même un petit peu en bout de course. Et effectivement, le film est une sorte de baroud d'honneur, de dernier tour de piste de ce cher John Rambo, avec 37 ans d'écart. Donc c'est la même rage, c'est le côté un peu bourrin, on va dire, de cinéma d'action, et puis effectivement une espèce de film très linéaire, très cru, très râpeux.
On va en parler. David Da Silva, vous partagez avec Olivier Delcroix cette particularité, c'est que vous avez été un des premiers à défendre Sylvester Stallone, y compris dans le rôle de Rambo.
Alors oui, parce que je trouvais qu'il y avait un côté qui n'était pas assez exploité dans les médias. Traditionnellement, on mettait en avant le côté violent de Rambo. Il y avait aussi un côté désespéré, la recherche de la rédemption, etc., qui aussi intéressait les spectateurs. Donc je trouvais que c'était un personnage intéressant, même si moi, personnellement, je préfère Rocky, parce que c'est un personnage plutôt optimiste, alors qu'il y a beaucoup de pessimistes et de noirceurs chez Rambo. C'est la pulsion de mort de Stallone, alors que Rocky, c'est plutôt la pulsion de vie. Donc voilà, je trouve que le premier, c'est quasiment un chef-d'œuvre du cinéma d'action des années 80. Les suites sont plus faibles. Le quatrième était très bon, John Rambo, réalisé par Stallone lui-même, le seul d'ailleurs. Par contre, le dernier, il y a quelques soucis.
Alors, du Vietnam à l'Afghanistan et à la Birmanie, le dernier Rambo, celui qui sort aujourd'hui, The Last Blood, il nous emmène où et que raconte l'histoire de cet ultime Rambo?
Effectivement, ce qui est amusant, c'est que là, tout d'un coup, devenu un septuagénaire rangé des voitures, John Rambo se retrouve dans un ranch. Il élève des chevaux. Il s'est même retrouvé doté d'une famille d'adoption et d'une fille qui l'élève comme si c'était sa propre fille. Et puis, ma foi, cette fille va se retrouver en fait kidnappée par des cartels mexicains parce qu'elle veut savoir qui est son vrai père. Et à partir de là, ça devient un tout petit peu ce qu'on appelle maintenant un revenge movie. John Rambo va sortir un peu ses couteaux, va ressortir de son placard son arc et ses flèches et va partir à la recherche de sa fille adoptive kidnappée par des cartels mexicains.
Voilà. Alors là, c'est quand même attendu, David Da Silva. Vous saluez chez Rambo le fait de nous étonner. C'est-à-dire que quand tout le monde l'attendait en Irak, il vient avec un pays qui n'était pas très connu par la cinématographie hollywoodienne, c'est-à-dire la Birmanie. Avant, il y a eu l'Afghanistan et bien sûr le Vietnam. Le fait qu'on le retrouve aujourd'hui au Mexique, ce n'est pas une grande surprise, non ?
Non, bah déjà, ça permet à Stallone de faire une sorte de western, parce que je crois qu'il avait envie aussi de faire un western moderne, donc ça, il a réussi. Après, c'est vrai que c'est une thématique très à la mode actuellement aux États-Unis, avec Trump, qui parle beaucoup du danger du Mexique, des cartels mexicains. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Stallone, mais aussi Clint Eastwood, qui étaient finalement deux personnages à Hollywood un peu à part parce qu'ils n'ont pas critiqué Trump lors de la dernière élection, mais ils ont fait deux films qui traitent du problème mexicain. La Mule pour Clint Eastwood et là Stallone qui traite aussi du même problème. Et je dirais même que ce dernier Rambo, c'est limite une publicité pour le mur que veut prolonger Trump. Parce que quand on regarde le film, on a l'impression qu'on entre aux États-Unis très facilement. Il n'y a aucun problème.
J'ai passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ce que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront.
C'est bien sûr un extrait de la bande-annonce du dernier Rambo avec la voix d'Alain Dorval. La voix qui double tout d'ailleurs Sylvester Stallone. Hein.
Depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Oui, c'est celle d'ailleurs dont les guignols se sont inspirés pour faire de la marionnette le Stallone, le représentant de l'Amérique dans les guignols de l'info, bien sûr. Donc c'est cette voix-là, effectivement, mais assez proche, en fait, en réalité, de la voix de Stallone lui-même. On sait que depuis l'enfance, Stallone était affublé d'une paralysie faciale, qu'il a dû lutter pour s'en sortir et pour essayer de parler correctement. Il lui en reste toujours des séquelles. Ce qui est amusant, c'est que dans la masterclass, d'ailleurs, qu'il a donnée à Cannes cette année... Il a dit qu'en fait lui et Arnold Schwarzenegger, qui avait quand même un débit aussi assez particulier, auraient pu finalement ouvrir des écoles d'orthophonie, ce que je trouve assez joli de la part de quelqu'un et assez fort en autodérision. Voilà. Mais effectivement, Sylvester Stallone, en tout cas dans le film, on voit bien qu'il a cette espèce de voix où on sent des caillasses qui roulent à chaque mot qu'il prononce. C'est un être taiseux, mais dès qu'il prononce quelque chose, on a l'impression qu'il nous tombe une carrière de... carrière de granit. Et quelque part, c'est vrai que le film, il est raté. Mais en même temps, à chaque fois qu'on le voit en gros plan, là, les close-up que fait Adrian Grunberg, le réalisateur mexicain du film, il n'a pas beaucoup à faire pour émouvoir. Il y a une tristesse dans ce film qui vous colle au basque, qui est terrible, presque une mélancolie. Parce que chaque fois que vous avez un gros plan de Stallone, vous voyez ses rides, vous voyez ses marques, ses stigmates. Et vous vous dites, ah oui, ça a été un grand guerrier. Et là, on voit un vieux cow-boy à la John Wayne, un espèce de personnage comme ça qui sort, voilà, on entendrait presque le cling-cling du ceinturon. Enfin, c'est assez... Oui, il y a quelque chose de mélancolique et triste dans ce dernier tour de piste.
Ouais, mais peut-être que la différence avec John Wayne, c'est que John Wayne n'a pas raté sa sortie, il a soigné sa sortie. Là, j'ai l'impression, en lisant la presse américaine, anglo-saxonne, en vous écoutant parler ce matin de ce film, qu'on est à peu près d'accord pour dire que c'est vraiment le plus mauvais film de la série, et aussi peut-être même de la filmographie de Sylvester Stallone. David Da Silva.
Alors je dirais pas que c'est le plus mauvais, parce qu'il a tourné vraiment des choses très mauvaises, Stallone, notamment ses comédies dans les années 90, et même dernièrement il a fait beaucoup de direct ou vidéo, donc des tout petits budgets, Escape Plan 2 et 3, qui sont encore plus mauvais que le dernier Rambo.
Puis à l'époque, dans les années 80, avec Cobra aussi, on a eu droit à des vrais nanars. Hein. Donc et là, on est quand même au-dessus du nanar.
Mais Cobra, il y avait le charme des années 80, il y avait un petit truc, quoi. Il y a une belle photographie, ce qui n'est pas le cas du dernier Rambo, qui est quand même éclairé de manière... vraiment pas attirant, quoi.
Chip et paresseux, note The Observer. Comme dernier baroud d'honneur d'une icône de l'action, le film est un pétard mouillé, précise Empire. L'ensemble est putréfié, mécanique, écrit le New York Times, et de Walden dit que c'est une prostate filmique boursouflée, ce qui n'est pas très gentil.
Non, bah c'est dommage pour Stallone, parce que c'est vrai qu'à 73 ans, on a l'impression qu'il se fourvoie un petit peu dans des sous-produits, alors que quand il a eu sa nomination aux Oscars pour Creed, c'est vrai qu'il avait annoncé des projets intéressants. Il avait notamment dit qu'il voulait plutôt se concentrer sur la réalisation. Il y avait son projet sur Edgar Poe. Il y avait aussi un film qu'il voulait mettre en scène sur un vétéran de la guerre en Afghanistan qui revenait paralysé, amputé, et il avait une relation difficile avec son beau-père, etc. Je crois que c'était avec Adam Driver qu'il avait ce projet. Donc tout ça, c'était très intéressant. Et puis finalement, il est retourné dans des schémas un peu faciles, des suites, des films d'action. Et puis ce dernier Rambo qui sort en salle, je pense, juste parce que il y a le nom de Rambo qui est vendeur. Sinon, on pourrait dire que c'est un produit plutôt série B pour le marché vidéo.
Alors, mais pourquoi il l'a fait ce film ? Et pourquoi il l'a fait d'ailleurs contre l'auteur même de Rambo, puisque David Morrell vient de déclarer au Newsweek qu'il n'aime pas le film, qu'il est tout à fait d'accord avec les critiques qui l'ont descendu en flammes. Il dit même que Sylvester Stallone a perdu son âme en tournant ce film.
Mais oui, non, mais effectivement, David Morrell, qui est l'inventeur du personnage de John Rambo, qui en 72, effectivement, avait entendu en tant qu'universitaire des jeunes étudiants revenus du Vietnam Et c'est ce qui lui avait d'ailleurs donné l'idée du personnage de John Rambo. À l'origine, le personnage de John Rambo, c'était quand même une sorte de vagabond béret vert, hippie, sans domicile fixe, un type perdu avec un syndrome post-traumatique irréductible dans une
parce
Amérique...
Parce que revenu d'une guerre perdue.
Voilà, parce que revenu d'une guerre perdue, exactement. Et en plus... poussé dans ses retranchements par des villageois américains dans leur bon droit qui refusent de le recevoir, de le faire traverser la ville. Donc il y avait cette espèce de lutte à l'intérieur de lui, de rage qu'il exprimait très bien dans les années 80 et qui était devenu véritablement un emblème. Maintenant, effectivement, le personnage de Rambo, ensuite, dès la mission, dès le numéro 2, est devenu, on l'a retourné, Stallone l'a retourné pour en faire un héros positif qui va chercher les Américains gardés au Vietnam. Parce qu'il en restait encore, soi-disant, et après, après effectivement, on en fait une sorte de guerrier ultime, le guerrier qui ne va pas se rendre, celui qui à qui on cherche des noises et qui forcément sera une sorte d'emblème de l'hyperviolence. Et puis c'est la part sombre de l'Amérique. C'est ça aussi qui est intéressant chez Rambo. Je pense que les gens vont sans doute aussi aller voir. Par curiosité, cette dernière incarnation du Rambo, comme on peut faire une sorte de visite au musée avec un John Rambo qui est là, mutique, taiseux, vieilli, mais toujours agissant. Et c'est amusant de voir que finalement, le personnage quand même a une espèce de charisme encore. Et on ressort du film en se disant oui, c'est pas un grand film, mais chaque image qu'on a vue, on va s'en souvenir. Il y a des séquences dont on se dit oui, elles sont filmées à la serpe. Tout est linéaire, tout est assez basique hein, dans cette espèce de revenge movie. Mais en même temps, quand Stallone est là, l'écran s'illumine. C'est aussi la capacité d'un comédien qui a passé sa vie à Hollywood et qui a un tel métier qu'il a qu'à apparaître sur l'écran pour fasciner les gens. Et même si on n'aime pas, parce que moi j'ai mis longtemps à apprécier Sylvester Stallone, je trouvais que dans les années 80, c'était effectivement le summum du kitsch. Et puis progressivement, avec les décennies, le comédien, vous revoyez les films et vous dites « Ah, il y a quelque chose ». Et puis ça véhicule quelque chose aussi de l'Amérique, ça véhicule quelque chose de la culpabilité des États-Unis.
Vous partagez cette analyse, David da Silva, l'analyse d'Olivier Delcroix ?
Oui, alors je vais juste ajouter quelque chose, c'est que dans le roman de David Morrell, Rambo c'est aussi un psychopathe, quelqu'un qui tue énormément.
Fou de rage.
Ouais. Voilà, et Stallone quand il a réécrit le scénario du premier, justement il a fait en sorte qu'il tue personne.
Et il y a une autre anecdote qui est quand même très célèbre, c'est qu'effectivement, normalement, à la fin du premier, le colonel Trautmann, cette espèce de figure paternelle consolatrice, le tue pour arrêter tout. Or, ce qui se passe, c'est que finalement, le colonel Trautmann, au départ, ce devait être Kirk Douglas. Kirk Douglas arrive en Nouvelle-Colombie, on est en 81, il commence à réécrire le film, et lui, il veut effectivement tuer Stallone. Et Stallone lui dit « Mais non, ce n'est pas un bon message que de tuer le personnage de John Rambo à la fin du film, parce que ça veut dire que tous les soldats qui sont revenus du Vietnam vont comprendre que finalement la mort est au bout du tunnel. » Et du coup, cette empoignade entre Kirk Douglas et Stallone va se régler de manière assez simple. Douglas décide de quitter le film et il est remplacé au dernier moment par un autre comédien. Et c'est comme ça que finalement, quand on va faire des screen tests du premier film à Los Angeles, les gens vont voir ce film qui, effectivement, comme vous le disiez, est un des premiers chefs-d'œuvre du film d'action, de l'action movie. Et les gens, à la fin du film, quand ils ont passé la mort de John Rambo, un grand silence et quelqu'un se dresse dans la salle en disant « Quel est le réalisateur de ce film ? Je veux le pendre au écourt. » Et à partir de là, ils ont tellement compris que les screen tests, donc les premiers essais en salle, le public était pour le personnage de John Rambo, qu'ils ont effectivement préféré faire ne pas mourir le Rambo.
Voilà, on est dans les années 80, c'est-à-dire que l'Amérique est encore sous le choc, sous le trauma de la guerre du Vietnam.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing.
Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car.
Lil Nas X, Old Town Road, c'est une chanson qu'on retrouve dans le dernier Rambo qui sort aujourd'hui, Rambo Last Blood. Et on en parle ce matin avec David Da Silva, l'universitaire qui a consacré tout un livre à Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, édité par Leitmotiv, et Olivier Delcroix, auteur d'un livre sur le cinéma d'action américain. Donc Sylvester Stallone, dont le rôle de Rambo est passé de l'image de l'incarnation de l'Amérique de Ronald Reagan à celle de Donald Trump avec ce dernier film, disiez-vous. Pour résumer un peu le contexte de ce cinquième et très probablement, je crois, dernier opus de la saga Rambo, David Da Silva.
Alors avec Stallone, on ne sait jamais, hein, parce qu'il avait déjà annoncé que c'était le... Après Rocky Balboa, il avait dit que c'était fini, il incarnerait plus le personnage, et puis on a vu qu'il a fait deux autres films, voire même peut-être un troisième, qui va aussi traiter peut-être du problème mexicain, cette fois d'un côté positif. Rocky, qui viendra en aide à un jeune sans-papier mexicain aux États-Unis.
Alors, il est pro ou Trump, ou pas du tout comme... Parce que vous, dans votre livre, vous expliquez qu'on est allé un peu trop vite en disant que c'est l'incarnation des années Reagan, Sylvester Stallone, avec ses deux rôles, que ce soit pour Rambo ou pour Rocky.
Voilà, j'analyse en fait que les critiques ont peut-être été ont une vision un peu trop simpliste. C'était simpliste d'associer Stallone et Reagan en disant que c'était des films à la gloire de Reagan. Alors que quand on regarde les films, c'est plus nuancé que ça, que ce soit Rambo 2 ou Rocky 4 même. Dans Rambo 2, on voit que le bad guy du film, il a un portrait de Reagan près de lui. Donc il est représentant du gouvernement américain. Et finalement, Stallone, Rambo, dans le film, s'attaque à ce représentant. Donc d'une certaine manière, c'est aussi une menace contre le gouvernement de Reagan. Peut-être de ne pas chercher assez s'il resterait des prisonniers au Vietnam. Et puis Rocky IV, c'est la même chose. Il y a une critique aussi de la société de consommation et de l'Amérique de Reagan. Si on regarde vraiment le film, faut pas oublier que Rocky, dans le 4, il est obligé de partir en URSS, dans un environnement qui rappelle l'Amérique du 19e siècle des pionniers. Et c'est là-bas qu'il retrouve finalement cet œil du tigre qui lui permet de gagner. Donc il le dit à un moment donné.
Est-ce que Rocky et Rambo sont frères ou pas? Ou est-ce que c'est deux facettes de l'Amérique incarnées par Sylvester Stallone?
Stallone le dit lui-même, hein. Il a les deux facettes en lui. Il le dit avec humour. Il dit que Rocky, Rambo, c'est lui avant son café et Rocky, c'est lui après son café. Mais voilà, je l'ai dit aussi que c'est les deux facettes de Stallone. Il y a un côté violent chez lui qui est bien représenté par Rambo, et puis il y a un côté plus positif, optimiste, qui est représenté par Rocky. Mais faut pas oublier que Stallone a toujours dit que son alter ego fictif, c'était vraiment Rocky. On n'a qu'à voir qu'il a écrit les scénarios des films seul, il a réalisé la plupart des films, ce qui n'est pas le cas de la saga Rambo. Ouais. C'est-à-dire qu'il est souvent co-scénariste et il a réalisé qu'un épisode.
Ce dernier Rambo qui sort aujourd'hui, The Last Blood, c'est un film assez Donald Trump plutôt, non?
Oui.
C'est ce que tous les critiques disent.
Tous les critiques le disent, évidemment.
Oui, mais pour mieux le descendre, d'ailleurs, pour mieux descendre le film.
Exactement. Non, mais c'est évident. On remarquera que, par exemple, c'est depuis 82, tous les Rambo se déroulaient hors du territoire américain. Et là, en fait, c'est un retour aux sources. Le film se déroule sur la terre américaine. Donc, la bagarre, elle a lieu aux États-Unis dans un ranch, donc c'est quand même assez symbolique.
De la politique de Trump.
Et oui, c'est ça, et donc de cette espèce de volonté de mettre un mur qui effectivement est qu'on traverse comme un rien d'ailleurs, hein. C'est terrible, c'est un gruyère.
Oui, ça fait peur quand on voit le film, hein. J'ai l'impression que les États-Unis c'est un pays ouvert et on traverse
tous les
la frontière.
Vents.
Ah oui, voilà. On voit à la fin les voitures des mercenaires arriver sans problème aux États-Unis.
Avec des armadas de mitrailleuses dans tous les sens.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Voilà, avec ça, avec tout ce que vous venez de dire, j'espère qu'il y aura quand même des gens qui seront suffisamment curieux pour aller voir ce dernier Rambo qui sort aujourd'hui. Et sinon, Olivier Delcroix, puisque vous êtes aussi le directeur du Figaroscope, ce que vous nous proposez cette semaine, c'est 30 week-ends au départ de Paris.
Oui, effectivement, voilà, pour s'évader un peu de la capitale quand on en a un petit peu marre, d'être tout le temps enfermé intramuros ou en tout cas dans ses côtés franciliens, on a l'habitude chaque année de faire un dossier qui propose 30 destinations à 2 ou 3 heures de Paris. Et effectivement, c'est évidemment pour nous l'occasion de faire un petit tour en France, d'aller au Havre pour assister au départ de la Transat Jacques Vabre, pour aller assister à un concert de Cher dont le passage en fait en France a été annulé et du coup qui donne son concert unique à Anvers, et puis voilà, d'une autre manière comme ça, pouvoir s'évader, offrir une parenthèse, un week-end en dehors de Paris, pour s'aérer, aller par exemple à Cabreton dans les Landes, parce que c'est l'automne gourmand, donc c'est les spécialités gastronomiques landaises qui sont formidables, et aller à Annecy aussi par exemple pour assister au retour des alpages, qui est une manifestation folklorique formidable. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir la France avec 30 destinations, et ça nous permet de nous aérer, voilà, évidemment partir pour mieux revenir à Paris.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci David Da Silva d'être passé ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage consacré à Sylvester Stallone, un héros de la classe ouvrière, c'est chez Leitmotiv. Merci Olivier Delcroix du Figaroscope.
Merci.
Et par ailleurs, amateur du cinéma d'action américain, vous avez publié aux éditions Webeck le cinéma d'action américain. Tous les deux, vous êtes un peu déçus par le dernier Rambo là qui sort aujourd'hui, The Last Blood. Vous êtes bien content de l'avoir vu quand même. Alors, à la réalisation, Vincent Abouchard. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard et à la prise de son ce matin, Adèle Caglar. Bonne matinée sur France Culture. On se retrouve demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Lumier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, témoigner, décrypter, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le grand roman du Brexit, c'est Le cœur de l'Angleterre, signé Jonathan Coe. Jonathan Coe sera l'invité des matins ce mercredi.
Les matins de France Culture, ce mercredi dès 7h et sur franceculture.fr.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les océans ont absorbé environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre générées par l'homme. Leur niveau pourrait augmenter de 3 mètres dans quelques années. Voici quelques lignes du rapport du GIEC rendu public ce matin. Il est alarmant, nous dira notre spécialiste environnement. Nous entendrons ensuite Donald Trump lors de son discours hier à la tribune des Nations Unies. Il a une nouvelle fois accusé la Chine de protectionnisme et de vol des technologies. Et puis avec la révolution numérique et la contrainte budgétaire, le gouvernement français veut créer un seul grand groupe audiovisuel dans le pays. Un groupe qui regrouperait notamment Radio France et France Télévisions. Les détails dans ce journal. C'est un sinistre tableau des océans et des zones glacées de la planète que va dévoiler ce matin le GIEC. Son rapport, fruit de 2 ans de travail, passe en revue les effets catastrophiques du réchauffement climatique. Jamais un travail de ce type n'avait été aussi poussé. Les experts de l'ONU notent ainsi que les océans ont absorbé près d'un tiers des gaz à effet de serre émis par l'homme et 93% de la chaleur issue du réchauffement climatique. Cela n'est évidemment pas sans conséquence, Véronique Roberotte.
Le réchauffement climatique affecte lourdement les mers et les glaces. Le rapport du GIEC devrait passer en revue une longue liste d'impacts dévastateurs, à commencer par la montée du niveau de la mer. Si le monde parvenait à contenir à 2 degrés la température de la planète d'ici la fin du siècle, le niveau des océans augmenterait d'une bonne 40aine de centimètres et du double 80 centimètres dans un monde à 3 ou 4 degrés de plus, réchauffement vers lequel nous conduisent les tendances actuelles. Acidification, désoxygénation, disparition des coraux, fonte rapide des calottes glaciaires et des pôles, le rapport du GIEC évaluera les risques dans l'avenir selon que l'on agisse avec détermination ou pas. Pour Bruno David, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, continuer à dérégler les océans, c'est prendre de gros risques.
Il ne faut pas croire qu'on va transformer l'océan en aquarium et qu'on va gérer l'océan comme on gère finalement notre appartement ou notre jardin ou notre balcon. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ça sera une solution si on le laisse tranquille. C'est surtout ça qu'il faut voir, parce que pour le moment l'océan nous rend d'énormes services. Une respiration sur deux, on la doit à l'océan, à travers la fabrication de l'oxygène. Mais c'est un système qui a une inertie énorme. C'est un système qui a une inertie de 1000 ans qu'on est en train de dérégler. Les systèmes sont simplement trop complexes pour pouvoir les maîtriser. Il faut accepter notre niveau d'ignorance. La solution globale, elle est qu'on sait très bien qu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Le rapport du GIEC sur les océans et les glaces sera rendu public ce matin à 11h.
L'ONU encore et son Assemblée générale qui se poursuit à New York. Hier, Paris et Londres ont vivement espéré une rencontre entre l'Américain Donald Trump et l'Iranien Hassan Rouhani. Les conditions sont réunies, a estimé publiquement Emmanuel Macron hier. Donald Trump, lui, a préféré mettre en garde la Chine. À la tribune de l'ONU, il a vivement critiqué Pékin sur sa gestion de la crise à Hong Kong, mais aussi sur les relations commerciales que la Chine entretient. Voici Donald Trump.
Non seulement la Chine, depuis son entrée à l'OMC, n'a pas adopté les réformes promises, mais elle a pris comme modèle économique le protectionnisme des entreprises hautement subventionnées par l'État, la manipulation des monnaies, le dumping, le vol de technologies et de brevets, et ceci à très grande échelle. Mais nous voulons un système plus juste. Les États-Unis ont perdu 60 000 usines depuis que la Chine a adhéré à l'OMC. Pendant des années, on a toléré, ignoré ces abus, voire même on les a encouragés. Mais cette fois, du point de vue des États-Unis, c'est terminé. Or even encouraged. But as far as
America is concerned, those days are over. Et pendant ce discours prononcé à New York, pendant ce temps à Washington, une procédure contre Donald Trump était lancée. La Chambre américaine des représentants va ouvrir une enquête pour impeachment, première étape en vue d'une possible destitution du président des États-Unis. La présidente démocrate de cette chambre, Nancy Pelosi, accuse Donald Trump d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival potentiel, Joe Biden, pour la campagne l'année prochaine. Le bras de fer est engagé à un peu plus d'un an de la présidentielle. Les députés chavistes sont de retour à l'Assemblée nationale au Venezuela. Ils n'y siégeaient plus depuis 2016, lorsque la Cour suprême proche du président avait jugé le Parlement en désaccato estimant que toutes ces décisions étaient nulles et non avenues. Les voilà de retour, les chavistes, fidèles soutiens du président Nicolas Maduro. Ils se réclament, je vous le rappelle, de l'ancien président et chef d'État Hugo Chavez. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur première séance hier au Parlement a été particulièrement houleuse. C'est un reportage de Benjamin Delisle.
Dès leur entrée dans le palais législatif, les députés chavistes donnent le ton. Vive Chavez, vive la patrie, scandent-ils sous le regard parfois agacé des députés d'opposition. Avant de s'engouffrer dans l'hémicycle, remontant presque les manches à l'idée du débat qui s'annonce, les parlementaires du camp présidentiel précisent d'emblée qu'ils ne sont pas là pour offrir une quelconque légitimité au Parlement. Saúl Ortega, député de Carabobo.
Cette assemblée reste en desacato et M. Guaido est un produit de l'illégalité. Nous venons pour une discussion politique, intervenir avec notre raison, nos idées, pour exposer les points de vue du peuple du Venezuela majoritaire qui a élu Nicolas Maduro.
Mais malgré cela, les députés d'opposition estiment qu'en revenant, les chavistes reconnaissent de fait l'Assemblée nationale. C'est le cas d'Edgar Zambrano, le vice-président du Parlement libéré la semaine dernière après plus de 4 mois d'emprisonnement.
C'est un nouveau pas vers la recomposition politique dont le Venezuela a besoin. C'est une bonne chose. C'est une reconnaissance du Parlement national, du seul pouvoir légitime, élu par le peuple. Donc, ils sont les bienvenus.
Reste qu'une fois dans l'hémicycle, chaque camp s'accuse de tous les maux. Les chavistes dénoncent un coup d'État permanent de l'opposition, laquelle répond en listant les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires. Le premier débat contradictoire en 3 ans vire donc très vite au combat de coq, d'autant que dans les tribunes, des invités de chaque tendance politique s'empressent d'applaudir ou d'huer chacun des discours. Quant au dialogue, tant attendu, il semble bien avoir du plomb dans l'aile.
C'était Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Le gouvernement français renonce. Il ne va finalement pas réduire une aide aux personnes âgées. Il s'agit d'une exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile. Face à l'opposition politique à droite, au centre et à gauche, cette exonération est donc conservée. Le Premier ministre Édouard Philippe le disait hier dans l'hémicycle. La CGT évoque 150 000 manifestants un peu partout en France. Ils étaient à Paris 12 300 selon le cabinet Occurrence qui compte les manifestants pour un collectif de médias dont Radio France. Tous protestaient contre la future réforme des retraites. Elle prévoit de fusionner les 42 régimes en un système unique par points à partir de 2025. Toutes les entités de l'audiovisuel public seront bientôt regroupées au sein d'une même structure, une holding appelée France Média. Le ministre de la Culture le précise ce matin, notamment dans les colonnes du Figaro. Franck Riester y présente les principales mesures de son projet de loi audiovisuel qui sera discuté au Parlement en janvier prochain, et spécialement donc les mesures qui concernent le service public. Il est aujourd'hui divisé entre Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde. Ce ne sera bientôt plus le cas, Maxime Tellier.
Les esprits taquins moquent déjà un retour de l'ORTF avec président et budget unique, mais le gouvernement préfère parler de modernisation. Pour un audiovisuel public puissant, capable de remplir toutes ses missions à l'heure de la convergence des médias, Franck Riester annonce donc la création d'une holding, une société mère baptisée France Média, qui détiendra 100% du capital de ce qu'il appelle les sociétés filles, à savoir France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Seuls Arte et TV5 Monde échappent au regroupement car leur actionnaires comptent aussi des pays étrangers. Autre évolution, le président de la holding ne sera plus désigné par le CSA, mais par le conseil d'administration de cette nouvelle entité où l'État ne sera pas majoritaire. Franck Riester présente cela comme un gage d'indépendance. Quant aux patrons actuels de l'audiovisuel public, eh bien, ils deviendraient des directeurs généraux à la tête de leur filiale, mais ne seraient plus maîtres de leurs moyens financiers car le budget sera commun et global. La nouvelle holding devra bâtir des coopérations éditoriales fortes, optimiser les moyens en mettant en commun par exemple la formation, l'informatique, la publicité, l'immobilier ou encore la stratégie numérique. France Média doit voir le jour le 1er janvier 2021 et bien sûr le plan d'économie pour l'ensemble de l'audiovisuel public n'est pas remis en cause. Il faut toujours réduire les dépenses de 190 millions d'euros d'ici 2 ans.
Au chapitre des économies encore, notons que le projet de loi de finances pour l'année 2020 doit être présenté d'ici la fin de la semaine. Ce matin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, pourrait en détailler certaines mesures. On sait déjà, par exemple, que le gouvernement veut mettre l'accent sur un budget vert. avec entre autres l'idée de pouvoir juger les recettes et les dépenses du budget en fonction de leurs effets sur le climat et sur l'environnement. Le temps en France métropolitaine, il restera maussade ce mercredi sur une grande partie du pays avec un ciel gris et pluvieux. Encore une fois, seules les régions près de la Méditerranée resteront au sec. Ce matin, Météo France prévoit 14 degrés à Metz, 16 à Rennes, Lille, Paris, Strasbourg, 18 degrés à Bordeaux et 23 à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans le journal des idées ce matin, Jacques, vous revenez sur le débat ouvert par le président de la République sur l'immigration. Plusieurs contributions à ce débat viennent éclairer la question des chiffres.
Oui, Clara, à commencer par celle de François Héran dans Le Monde. Le titulaire de la chaire Migrations et Sociétés au Collège de France revient notamment sur les propos présidentiels selon lesquels la France serait en passe de devenir le premier pays d'Europe pour la demande d'asile. Pour le démographe, nous en sommes très loin. Raisonner, je cite, en chiffres absolus n'a aucun sens quand il s'agit de comparer des pays de taille inégale et de richesse variable. C'est aussi absurde que de comparer le prix des appartements sans tenir compte de leur surface. S'il est vrai que de janvier 2017 à juin 2019, la demande d'asile a baissé de 50% en Allemagne et progressé de 25% en France, quand on calcule le nombre annuel de demandeurs d'asile par million d'habitants, ce sont les pays méditerranéens les plus exposés qui arrivent en tête, astreint au règlement Dublin qui attribue l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qu'il a accueilli. Ce sont Chypre, la Grèce et Malte. La France étant loin derrière au 11e rang avec 1730 demandeurs par million d'habitants. Et si l'on rapporte les chiffres au PIB, elle recule au 15e rang. En écartant les données de base de l'immigration au profit d'une politique d'opinion, écrit François Héran, on risque d'offrir à Marine Le Pen une reddition en rase campagne électorale, le contraire du but recherché. Et François Héran, donc, de citer Rousseau, la domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Or, les faits sont têtus, population, richesse, superficie, les données des fameux capacité d'accueil qu'il faudrait prendre en compte pour fixer les quotas d'immigration reviendrait, si une telle mesure était généralisée en Europe, à accroître la part de la France dans l'accueil de l'immigration au lieu de la réduire. Si le président de la République est de bonne foi, je cite, et ne cherche pas seulement à faire un coup en vue des différents rendez-vous électoraux qui vont s'enchaîner d'ici à la présidentielle, sa tâche ne sera pas facile, estime Michel Tribala dans le Figaro Vox, car présenter le sujet en privilégiant la réponse européenne équivaut à afficher son renoncement, les dirigeants européens n'ayant pas les mêmes intérêts, n'étant pas prêts à se mettre d'accord pour élaborer une politique migratoire vraiment commune. La démographe juge par ailleurs que les statistiques sur l'immigration n'ont pas toujours la clarté et la précision nécessaires. C'est le cas par exemple des données sur les premiers titres de séjour délivrés en 2015 par motif et groupe d'âge transmises par la France à Eurostat. Ils ne regroupent que partiellement ceux de l'INSEE qui estime l'immigration étrangère à partir des enquêtes annuelles de recensement. Mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Dans les pages idées de Libération, Olivier Bertrand livre un témoignage sur son enfant vécue dans des cités de la banlieue parisienne. La plupart des habitants des tours et des bars venaient d'Algérie et du Mali. Est-ce que nous vivions cela comme un problème, demande le journaliste, eu égard aux propos présidentiels sur les difficultés dans les quartiers populaires. D'origine italienne, ses parents étaient entrés un peu racistes dans leur première cité HLM. Ils ne l'étaient plus en repartant. Ce qui posait problème, c'était les conditions de logement, la mauvaise insonorisation, les volets qui tombaient en panne et que l'office HLM ne voulait jamais réparer. C'était les conditions de transport qui nous maintenaient loin de la ville et nos parents du travail. Aujourd'hui, c'est le bruit des scooters le soir lorsqu'ils tournent en boucle dans des quartiers où tout résonne et où la police entre rarement. Ou encore le contrôle social imposé par les réseaux de trafiquants de drogue et par tous ceux virils qui tiennent le pavé ou les murs. Et aussi le manque d'emploi, l'ennui, la malnutrition, le sentiment de relégation. Mais pas l'immigration comme un refrain qui rimerait avec le bruit et l'odeur. Sur le site de l'hebdomadaire Le Point, Gabriel Guiménez-Roche commente une enquête enquête américaine portant sur le recours aux aides sociales des immigrants. Elle montre qu'ils y ont moins recours que les natifs, car ils cumulent souvent plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de leur famille, ce qui les place au-dessus de la moyenne habilité à en bénéficier. Souvent plus qualifiés, ils sont aussi moins informés des conditions administratives pour les obtenir. Ces chiffres montrent que les freins, je cite, à l'utilisation des aides par les immigrés sont beaucoup plus importants que ne le pensent les partisans des contrôles migratoires. La dernière livraison de la revue Dégénération pointe l'inhospitalité des pays développés à l'égard des migrants. Parmi d'autres, l'historien Patrick Boucheron rappelle la politique des pays européens pour empêcher, je cite, l'appel d'air, décourager ceux qui sont déjà là et leur rendre la vie impossible, une manière de nier l'héroïsme de leurs conditions d'exilés. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour. Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, une question, qui soutient encore Taïwan?
Oui, après les îles Salomon, petites îles du Pacifique, ce sont les îles Kiribati qui viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Alors, îles Salomon, Kiribati, ça pourrait paraître anecdotique si ces archipels n'avaient pas en une semaine réduit à 15 le nombre d'alliés de Taïwan, des alliés qui ont d'ailleurs défendu sa cause à l'ONU à l'occasion de l'Assemblée Générale. Taïwan aujourd'hui n'est pas reconnu en tant qu'État indépendant et la Chine considère toujours cette nation archipel de 23 millions d'habitants comme l'une de ses provinces. Il est 12h45 à Taipei, la capitale taïwanaise. On vous y rejoint, Jean-Yves Hurtubise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Taïwan, chercheur associé au Centre d'études français de la Chine, qui lui est basé à Hong Kong. Alors avant de vous demander, Jean-Yves Hurtubise, pourquoi les alliés de Taïwan font défection les uns après les autres, je peux prendre la question dans l'autre sens et vous demander pourquoi les 15 pays qui, à l'heure actuelle, soutiennent encore Taïwan, pourquoi le font-ils encore? Pourquoi n'ont-ils pas cédé aux pressions de Pékin qui voudrait que Taïwan n'ait plus un seul allié sur la scène internationale?
Merci pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question. Donc en fait, la difficulté pour répondre à cette question, c'est que c'est des cas en fait assez divers parce que donc Taïwan a encore des alliés diplomatiques donc dans à peu près différentes régions du monde, donc en Afrique, dans le Pacifique, en Amérique centrale, Haïti, et aussi donc en Europe avec le Vatican. Donc par exemple, si je prends le cas du Vatican, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut penser que le Vatican conserve ses relations avec Taïwan. La première, c'est, on peut se dire que le Vatican ne s'achète pas. Peut-être que la diplomatie du chèque a ses limites. La deuxième, c'est qu'il y a un rapport historique assez profond entre le christianisme et la femme de Chiang Kai-shek, donc l'ancien fondateur, l'ancien dirigeant de la République de Chine ou Taïwan. Et aussi évidemment le cas du christianisme en Chine qui fait problème.
Alors quand vous
donc,
dites
par exemple pour le Vatican. Oui, pardon. Pour le Vatican, ça peut être une des raisons qui explique pourquoi il est resté allié.
Alors Jean-Yves Hurtubise, quand vous parlez de la diplomatie du chèque ou du carnet de chèque, vous parlez de celle de la Chine qui a fait miroiter à tous les autres pays. Tous ceux qui ont fait défection, qui ont retiré leur soutien à Taïwan ces derniers temps, ont reçu de la part de la Chine des sommes importantes. Vous prenez dans une tribune au Monde l'exemple de Haïti. Taïwan a proposé à Haïti un prêt de 150 millions de dollars pour rétablir l'électricité. La Chine, elle, a offert plus de 4,5 milliards de dollars. Donc voilà, c'est, en fait, pour vous, tous les pays qui font défection pour l'instant, c'est pour des raisons financières.
Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais disons que la raison financière est quand même importante. Là, on sait que, par exemple, pour les îles Salomon, ce qui a chuté, c'est qu'il y aurait 730 millions d'aides. Bon, pour un micro-État du Pacifique, ça représente une somme quand même assez importante. Donc ensuite, évidemment, il y a l'aide, mais ensuite il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire ensuite un ensemble de projets d'infrastructures, un ensemble de relations commerciales. Et donc par rapport, pour revenir sur l'autre question, par rapport aux raisons qui peuvent aussi empêcher les autres pays de céder à la Chine, il y a aussi le fait que Taïwan elle-même, le pays archipel lui-même, est aussi pris dans un ensemble de relations géopolitiques, notamment celle qui le lie de plus en plus fortement aux États-Unis.
Oui, justement, les États-Unis, dans le journal de Clara Lecoq-Réal, on entendait que Donald Trump, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU hier, a encore accusé la Chine de patriotisme, de protectionnisme et de vol de technologie. Est-ce que Taïwan peut toujours compter sur le soutien des États-Unis, qui sont engagés aux côtés de l'île en cas d'intervention militaire chinoise, par exemple? L'accord date de 1951.
Oui, tout à fait. Alors, il y a cet accord, il y a ce qu'on appelle aussi ensuite le Taiwan Act, qui en effet, normalement, suppose qu'en cas d'agression chinoise, les États-Unis pourraient non pas peut-être contribuer en termes d'armement, en termes de soldats, mais en tout cas devraient contribuer à l'effort de défense de Taïwan, au moins au point de vue logistique et militaire. Donc il y a ces accords-là. Il y a aussi le fait que c'est vrai que la présidence Trump et la présidence Tsai, au cours de ces deux présidences, il y a quand même le renforcement extrêmement fort des liens entre Taïwan et les États-Unis. Il y a eu aussi récemment le Taiwan Relations Act qui permet donc à des responsables de haut niveau de se rencontrer entre Taïwan et les États-Unis. On sait que normalement la Chine empêche les dirigeants taïwanais ou les ministres taïwanais de se rendre dans des pays qui ne reconnaissent pas le Taïwan, sous peine donc de représailles économiques, etc. Donc il y a quand même tout un ensemble de choses qui font que aujourd'hui la relation entre Taïwan et les États-Unis est quand même assez forte.
Jean-Yves Ertebiz, un mot aussi sur peut-être l'hypocrisie, la grande hypocrisie des pays occidentaux comme la France et l'Allemagne, qui ne reconnaissent pas officiellement Taïwan pour ne pas fâcher Pékin, mais qui font par ailleurs des affaires. La France n'a pas d'ambassadeur à proprement parler à Taipei, mais elle a un représentant de Bercy, par exemple.
Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le bureau de représentation de Taipei, donc le bureau de représentation de la France à Taipei, qui en effet n'est pas une ambassade, mais qui en fait il y a un personnel qui est relativement important, il y a tout un ensemble de services consulaires et il y a tout un ensemble d'échanges. Alors c'est vrai que les échanges notamment entre la France et Taïwan ne peuvent pas être à un niveau qui est bon par exemple militaire politique, mais par contre au niveau par exemple du ministère de la culture, de nombreux échanges entre les universités françaises et taïwanaises, de nombreux échanges sur le terme de culture, cinéma, etc.
Alors, Jean-Yves Ertebiz, est-ce que ces défections en série, est-ce que cet isolement diplomatique de plus en plus grand de Taïwan renforce par réaction le camp de l'indépendance à Taïwan? On approche de la présidentielle, ce sera en janvier, ce sera sans doute un thème de campagne que ces défections. Est-ce que vous sentez que c'est un débat qui prend dans l'opinion publique?
Oui, alors il y a l'aspect, en effet, c'est-à-dire que le problème de ces défections, c'est qu'en effet, après, il y a un aspect politique. Hein. Et donc, pour ça, il faut voir ça dans le contexte, en fait, dans le contexte qui est local à Taïwan, c'est-à-dire notamment la prochaine échéance des élections législatives et présidentielles en 2020, en janvier 2020. Et donc, comme on sait à Taïwan, donc il y a deux grands partis, hein, et donc il y a le parti démocrate, le DPP, le parti nationaliste KMT, et donc on va dire que l'un est plus pour, on va dire, une relation plus d'autonomie, une relation avec des autres pays, tandis que le KMT est pour une intensification des relations avec la Chine, d'accord. Et donc c'est vrai que la Chine, en prenant des alliés à Taipei, cherche à faire passer un message, à savoir, si vous votez DPP, si vous réalisez Tsai Ing-wen, donc la présidente actuelle de Taïwan, vous allez perdre un de vos alliés. Donc ça, c'est aussi l'aspect, on va dire, politique de la stratégie de Pékin par rapport à ces changements d'alliance.
Un mot justement sur cette présidente Tsai Ing-wen qui est du Parti démocrate, dont vous venez de dire que c'était celui qui avait plutôt une relation d'autonomie avec Pékin, en tout cas il travaillait. Comment vous avez vu se répercuter ou pas, vous, dans les rues de Taipei, dans la presse taïwanaise, les grandes manifestations à Hong Kong depuis la fin mars et qui continuent encore aujourd'hui de façon un peu plus sporadique? Quelles répercussions ont eu ces manifestations réprimées par Pékin? Manifestation soutenue par la présidente taïwanaise. Est-ce que déjà sur un aspect simplement démographique, vous avez vu des Hongkongais quitter leur île pour s'installer chez vous à Taïwan?
Oui, bien sûr. Alors ça, on a même des chiffres assez précis, c'est-à-dire que on peut chiffrer qu'entre janvier 2019 et août 2019, il y a eu 28% de Hongkongais qui sont venus à Taïwan de plus qu'à la même période l'année dernière, c'est-à-dire entre janvier 2018 et août 2018. Donc il y a presque 30% d'immigration hongkongaise en plus, donc les Hongkongais qui viennent, donc ça c'est un fait statistique réel, et donc ils viennent à Taïwan, donc pour, en tant que Taïwan est un peu le dernier bastion, si on peut dire, c'est peut-être un peu romantique, de la démocratie parlementaire, présidentielle dans le monde chinois, dans le sens où ils ont, les Hongkongais qui viennent, ils ont l'impression d'une érosion des libertés, que celle-ci est encore conservée à Taïwan.
Alors, pour conclure, Jean-Yves Hurtubise, le principe qui lie aujourd'hui Hong Kong à la Chine, qui a été acté en 84, un pays, deux systèmes, en fait, un système 2 ou 3, comme nous disait récemment notre invité Eric Florence dans cette émission, puisqu'Hong Kong a en fait très peu de marge de manœuvre par rapport à Pékin. Mais est-ce que ce principe, un pays, deux systèmes, serait applicable à Taïwan? La Chine le souhaite, comment compte-t-elle s'y prendre?
C'est vrai que là, tous les événements qui sont passés à Hong Kong font que maintenant, il y a eu un sondage récemment, et donc 90% des Taïwanais sont contre le système, un pays contre le régime, un pays de système. Donc évidemment, il n'y a pas du tout de soutien au sein de la population. Et même ce qui est assez frappant avec l'ensemble des événements qui se sont passés à Hong Kong, la présidente Tsai Ing-wen a pris, elle, parti pour les manifestants. Et donc, les candidats aux élections présidentielles du KMT, évidemment, ils ne pouvaient pas non plus dénier être dans la négation, étant donné ce support quand même assez important populaire à Taïwan. Et donc, même le candidat du KMT a dit que voilà, le système, un prix de système, ne passerait jamais sauf sur mon corps mort, c'est l'expression qu'il a pris. Donc même au sein du KMT, même pourtant un candidat qui est considéré comme assez pro-chinois, même pour eux, la notion de un pays de système, qui est la seule que la Chine vraiment propose à Taïwan, ne passe pas.
Merci beaucoup Jean-Yves Hurtubise d'avoir été avec nous. Donc on entend bien que c'est toujours le rapport à la Chine continentale, notamment des candidats, qui détermine le jeu politique taïwanais. On aura l'occasion d'y revenir pour les prochaines élections. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Depuis Taipei.
Merci à vous. Au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Secret, temps 2 de Joanne Le Guilherme. Dans cette pièce majeure du cirque contemporain, Joanne Le Guilherme échafaude ses sculptures avec concentration et malice et les met au défi du mouvement perpétuel. De ces duels entre l'homme et l'objet naissent des tableaux d'une mystérieuse poésie. Secret, temps 2, jusqu'au 20 octobre, à l'espace Chapiteau de la Villette, à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, bonjour à tous et bonjour à vous Guillaume Erner.
Et bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
À 6h55, c'est l'heure de votre humeur du jour. Peut-on parler de tout sans tabou?
Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'immigration parce que bien souvent quand on dit sans tabou, on veut parler d'immigration. Là, je veux vous parler de nos entrailles. Non pas pour savoir si le fruit de nos entrailles est béni, mais au contraire pour évoquer le produit de nos entrailles réputé dégradant et même considéré comme étant le symbole même du déchet et de la déjection. Vous savez qu'en France, on répugne à parler des intestins, impudique, j'ai mal au ventre, désigne cette région du corps un peu vague, que l'on préfère omettre au pays de Madame de Sévigné. Rien de tel ailleurs où l'on peut parler de tout, et c'est ainsi qu'un article est en tête des articles les plus lus depuis quelques jours parmi les papiers du New York Times. Il s'intitule « Women poop sometimes at work », ce qui pourrait être traduit par « Les femmes font la grosse commission, parfois au travail ». Et cet article d'évoquer la gêne ressentie lorsqu'il s'agit de se libérer au travail, notamment lorsqu'on est une femme, une gêne telle qu'elle est parfois freinée au point de faire du mal à son corps. Illustration supplémentaire de la supériorité du laisser-faire, laisser-passer, le lâcher-prise étant désormais la seule philosophie qui prévaut en matière de rapport au corps dans le monde anglo-saxon et de plus en plus aussi dans nos contrées. Peut-on parler de tout, y compris de ce qui se déroule dans les WC? Eh bien, la tendance est évidemment celle-ci, et le vieux monde, nous, est incontestablement À la remorque à cet égard, conséquence indirecte de la montée du discours écologique du nouveau rapport à la nature, il est de moins en moins sale de parler de ce qui jadis était considéré comme l'acmé du sale, le salissime. Il y a eu le best-seller mondial de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin, l'autre livre culte de Kathleen Meyer, Comment se soulager dans les bois, pour une approche environnementale d'un art perdu. De signe, mais pas les seuls, que ce que produit l'intestin nous regarde et que l'on est de moins en moins prêt à en taire le contenu. De l'intérêt pour le microbiote à la diffusion des toilettes sèches qui ont pour conséquence de ne plus dissimuler au loin la matière. Alors, je vous laisserai décider du fait de savoir si nous sommes arrivés au stade final de l'humanité, le stade anal, ou si nous mettrons quelques années pour y parvenir, au stade étron, bien entendu.
Et bon petit déjeuner.